rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue. Ses mères l'espacent d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite monigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.
Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Fréquence Mistral. Bonjour, chers lycéens. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de cours radiophoniques sur la Première Guerre mondiale. Et la première chose à dire sur cette Première Guerre mondiale, c'est de définir les causes. Donc, pour l'histoire, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche-Hongrie et de sa femme à Sarajevo le 28 juin 1914 en Bosnie signifie l'entrée en guerre du monde. Comment un événement dans les Balkans a-t-il pu avoir une répercussion mondiale et déboucher sur la Première Guerre mondiale ? Nous avons ici des causes directes d'une guerre entre Européens. Quelles sont ces causes ? La première, c'est un système d'alliance qui s'est mis en place entre 1890 et 1914. D'un côté, il y a l'entente, c'est-à-dire la France, la Russie, la Grande-Bretagne. Donc, pour expliquer très brièvement ce qu'est l'entente, en fait, l'entente, c'est d'abord un rapprochement entre la France et l'Empire russe. En effet, jusqu'en 1890, l'Empire russe était plutôt allié de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Puis à partir de 1890, on a un retournement d'alliance, notamment parce que la Russie soutient ardemment les peuples des Balkans, à majorité slave, dans une politique pan-slave, contre les visées expansionnistes de l'Autriche-Hongrie. Et donc tout naturellement, la France profite de cette mésentente entre la Russie et Vienne pour se rapprocher de la Russie et proposer son soutien. Et régulièrement, les présidents de la République française vont chercher en Russie à soutenir l'Empire russe. Et ce n'est pas seulement les présidents de la République, mais c'est aussi le système bancaire français qui investit massivement en Russie, et notamment dans les usines autour de Saint-Pétersbourg ou dans le Transsibérien. Donc nous avons déjà une première alliance franco-russe qui est adjointe aussi d'un accord qu'on appelle une entente cordiale entre la France et Londres, la Grande-Bretagne, qui est en fait une entente qui n'est pas une alliance à proprement parler, c'est plutôt un accord pour régler des litiges coloniaux. Je rappelle que nous avons une compétition coloniale qui n'a eu de cesse de se produire durant tout le 19e siècle entre la France et la Grande-Bretagne, la dernière crise étant notamment Fashoda, mais il y avait d'autres crises aussi en Égypte, entre les intérêts français et les intérêts britanniques, et notamment ça a conduit à une co-gestion du canal de Suez, et aussi à un échange d'intérêts, les Français laissant leurs intérêts aux Britanniques en Égypte, en échange du soutien des Britanniques dans la question marocaine. La Grande-Bretagne se rapproche donc de la France, car sa puissance navale est remise en question par l'armement allemand, le réarmement allemand, et notamment de la marine de guerre allemande. Mais attention, cette alliance franco-anglaise n'est pas véritablement exacte. Même si on a des discussions entre les états-majors, c'est véritablement l'invasion allemande de la Belgique le 4 août 1914, et donc le fait de ne pas respecter la neutralité belge qui entraînera Londres à s'engager résolument du côté des Français. De l'autre côté, donc, nous avons ce qu'on appelle une triple alliance, qu'on a longtemps appelé la triplice, qu'il ne faudrait plus appeler comme ça d'ailleurs, mais je vais expliquer pourquoi. La triplice, en fait, nous avions une double alliance germanique et austro-hongroise qui datait de l'époque de Bismarck, avec des relations, on va dire, familiales entre les empereurs, les deux empereurs et les familles respectives des différents royaumes allemands avec l'Autriche, et nous avons donc ce Reich allemand qui est allié de la double monarchie austro-hongroise de Ferdinand. À l'assassinat de Sarajevo, cette double alliance se met en place de façon graduelle, c'est-à-dire que quand Vienne envoie un ultimatum à la Serbie, avant d'envoyer cet ultimatum, elle demande des conseils à Berlin pour renforcer ou non l'ultimatum. Une fois qu'elle reçoit l'aval de Berlin, elle envoie l'ultimatum. L'ultimatum est tellement dégradant pour Belgrade que Belgrade demande le soutien du tsar Nicolas II qui soutient les Slaves et qui soutient donc Belgrade. Et donc Belgrade, ce petit pays qu'est la Serbie, s'oppose à certaines clauses, en tout cas, de l'ultimatum austro-hongrois. Ce qui fait que on a une mobilisation de l'armée, d'une partie de l'armée austro-hongroise qui conduit à une mobilisation en mois de juillet d'une partie de l'armée russe, qui pousse elle-même à une mobilisation de l'armée allemande, qui entraîne automatiquement une mobilisation de l'armée française. Donc cet accord triplice n'est pas effectif, puisqu'il manque un pays dont je n'ai pas parlé, c'est l'Italie. L'Italie, en 1914, reste neutre. En fait, elle est déjà en train de basculer dans le camp de la France, mais n'ose pas encore véritablement le faire, du fait qu'elle ne se sent pas prête à ce moment-là d'entrer en guerre. Donc la deuxième raison de cette entrée en guerre, qui va avec cette succession d'ultimatums et de mobilisation, c'est que puisqu'il y a mobilisation, ça veut dire que nous avons des états-majors qui sont tous convaincus, de part et d'autre, que la guerre sera courte, ça durera pas plus de 6 mois. C'est ce que promet le plan Schlieffen de l'état-major allemand du côté du Kaiser Guillaume II. C'est ce que promet aussi Joffre du côté français. Sur le papier, donc, les forces mobilisées sont colossales. 800 000 soldats du côté français, 1 300 000 russes, 900 000 allemands, 600 000 austro-hongrois, 70 000 tomis anglais, seulement, vous me direz, on verra pourquoi après. Il y a une course aux armements entre 1910 et 1914, qui donne aussi cette illusion que la guerre sera courte, hein. Le budget allemand militaire est multiplié par 2. Le service militaire français est passé en 1913 de 2 ans à 3 ans. Donc nous avons une guerre qui semble, sur le papier, très courte. Et puis on ira à l'offensive à outrance, puisque de chaque côté de l'échiquier, la seule solution, c'est donc l'offensive, nach Berlin le plus rapidement possible, à Berlin le plus rapidement possible. C'est ce qui est sur le papier décidé, et ça sera dans 6 mois, et dans 6 mois on rentrera tous à la maison. La guerre était-elle inévitable? Nous avons un parti libéral anglais qui était largement contre une guerre en Europe. C'est véritablement l'invasion de la Belgique qui est responsable le 4 août dans l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne. Du côté de l'Europe continentale, on va dire, les partis socialistes sont idéologiquement contre la guerre. Je rappelle que le mouvement socialiste a été interdit sous Bismarck à partir de 1871, parce que justement le parti socialiste allemand s'était déjà opposé à la guerre contre les Français de 1870. Cette opposition à la guerre au nom de l'international, de prolétaires unissez-vous, de cette idée marxiste qu'avec l'international on arrive à résoudre la paix, eh bien elle est rééditée, hein, le 31 juillet 1914, au Café du Croissant, quand Jean Jaurès est assassiné par un nationaliste, Raoul Villain. Jean Jaurès est attaché à la défense de la patrie. Il est aussi convaincu que les guerres sont les conséquences de luttes d'intérêts capitalistes et que la classe ouvrière devrait s'y opposer et doit absolument s'y opposer. Il croit, et il le dit au congrès de la SFIO en juillet 1914, qu'une opposition au conflit est possible et que le conflit peut être évité, si possible, par une grève générale dans tous les pays. Et c'est réédité, écoutez-moi bien, le 29 ou le 30 juillet à Bruxelles par la Deuxième Internationale, qui est en fait la grande réunion de tous les sociodémocrates, on va dire, de l'époque, les socialistes de l'époque, du SPD allemand jusqu'à la SFIO française, en passant par le Parti travailliste britannique, qui se lance dans des discussions et des discours contre la guerre, où s'illustrent notamment Jean Jaurès et Rosa Luxembourg. C'est l'assassinat donc de Jaurès qui interdit cette dernière espérance de paix. Quand il est assassiné donc le 31 juillet 1914, eh bien c'est suivi immédiatement d'une union sacrée qui va concerner tous les syndicats de gauche, y compris donc la CGT. Donc Clémenceau dira un peu plus tard, hein, que cette guerre en fait était inévitable. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire ça aussi, nous, en tant qu'historiens, aujourd'hui? Eh bien, dans chaque pays, on a un orgueil national qui est chauffé à blanc. Il est chauffé à blanc par une presse d'opinion qui est régulièrement très patriotique. Ce n'est pas véritablement la question de l'Alsace-Lorraine. Ni en France, ni en Allemagne, on ne se pose réellement la question de l'Alsace-Lorraine avant l'été 1914. Ce sont plus la question marocaine et le réarmement allemand qui entraînent la presse vers le bellicisme et donc le réarmement général. Je rappelle, hein, multiplier le budget est multiplié par deux en Allemagne entre l'année 1910 et l'année 1914. L'encadrement de la société doit être ici pris en compte. Nous avons ici une obéissance absolue. La hiérarchie de l'enfant vis-à-vis du père, de l'écolier vis-à-vis de son maître, de l'appelé du contingent vers sa patrie. Nous avons de chaque côté de la frontière, on va dire entre l'Allemagne et la France, nous avons des chants très glorieux. Le chant du départ du côté français, Die Wacht am Rhein pour du côté allemand. Il y a une culture du héros, une culture aussi de la défense nationale. On défend la patrie d'un côté, on défend le Vaterland de l'autre. On a des héros militaires, notamment qui sont illustrés dans l'histoire du pays. Ce sont l'armée de l'an 2, puisque nous sommes dans une république nouvelle du côté français. Ce sont les grognards. Du côté allemand, c'est aussi cette armée de libération de 1814-1815 contre les troupes napoléoniennes. Nous avons un sens du devoir dans tous les pays qui est instauré par les églises, par les écoles, par l'autorité paternelle familiale. Le sens du devoir vis-à-vis de ses proches et donc de sa patrie font que la mobilisation se fait, y compris en Grande-Bretagne où le service militaire n'existait pas. Les cas de désertion sont quasi inexistants. L'union sacrée est la règle. Tout homme doit combattre pour être considéré comme tel. À l'époque, se faire réformer est une honte pour un fils vis-à-vis de son père ou vis-à-vis de sa famille. Se faire réformer, c'est la honte. Et puis en Angleterre, vous avez aussi des jeunes femmes qui, une fois que la guerre est déclarée, se baladent en ville avec des plumes et puis offrent des plumes avec accompagnées de colibés pour se moquer des jeunes hommes qui sont encore en civil et qui ne sont toujours pas portés volontaires. Donc, la mobilisation se déroule, attention, sans joie, mais résolument. La fleur au fusil, c'est un peu l'image d'Épinal qu'on nous livre encore aujourd'hui. Bien sûr qu'on met des fleurs sur le passage de ces troupes, mais vous pensez bien que les familles n'étaient pas véritablement très joyeuses de voir partir leurs garçons vers la guerre. D'autant plus que nous sommes en juillet-août, c'est la saison des vendanges, que dans des sociétés agricoles comme la France, la société va faire les vendanges, il faut des hommes, et ces hommes partent au moment de la récolte. Et en plus de ça, tout le monde sait ce que ça veut dire une guerre. Personne n'est dupe. C'est donc plus l'éducation, la pression sociale, la pression sociétale, nationale, l'union sacrée partout, qui explique l'entrée en guerre des sociétés en 1914. Alors pourquoi cette guerre entre Européens est-elle devenue mondiale ? Alors, je vous invite à regarder une carte du monde de 1914 et vous remarquerez que le monde est dominé par les puissances européennes coloniales, et quand je dis européennes, c'est américaines avec, parce que les Américains ont à l'époque déjà les Philippines. Donc nous sommes ici dans une période où l'Europe domine le monde, et donc tout naturellement, quand les pays métropolitains rentrent en guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils mobilisent leurs troupes venant des colonies. C'est donc les Français d'Afrique du Nord, d'Algérie, les Algériens musulmans qui forment les Spahis et les Zouaves, ce sont les Tabors marocains, les Spahis tunisiens, les Tirailleurs sénégalais, les Malgaches, les Indochinois, les Polynésiens, les Kanaks. Toutes les colonies françaises sont donc mobilisées. Le plan des états-majors dit qu'en 14 jours, l'armée d'Afrique doit être déjà sur le front, puisqu'on sait que c'est une guerre rapide. Enfin, on pense en tout cas dans les états-majors que c'est une guerre rapide. La Grande-Bretagne, elle, mobilise aussi ces Canadiens, ces Sud-Africains, ces Australiens, ces Néo-Zélandais, ces Africains, ces Indiens, ces Amérindiens. La guerre dure aussi plus de 4 ans, au lieu des 6 mois annoncés. Donc pendant cette période de 4 ans, les deux systèmes d'alliance, l'entente d'un côté et ce qu'on va appeler les empires centraux de l'autre, cherchent aussi d'autres alliés. Alors en 1915, l'entente l'Italie, la Grèce, la Roumanie qui rentrent dans le jeu du côté de la France et de la Grande-Bretagne. Du côté des empires centraux, c'est la Bulgarie et l'Empire ottoman qui rentrent du côté de l'Allemagne et de l'Autriche. Vous avez aussi, plus loin, de l'autre côté du monde, le Japon et la Chine qui rejoignent l'entente dès 1915-1916. Pour le Japon, parce qu'il voit bien qu'il y a des ports allemands en Chine, hein, comme Tientsin, donc il veut mettre la main sur ça. Et puis il veut mettre la main aussi sur les îles de Micronésie, parce qu'il y a des coraux qui l'intéressent. Donc nous avons, par exemple pour la Chine, l'envoi de 300 000 ouvriers chinois en France à l'époque, dont un futur dirigeant chinois qui s'appelle Deng Xiaoping et qui viendra en France dans des usines à côté de Paris, non seulement pour apprendre la langue française, mais surtout pour travailler dans les usines d'armement qui produisent pour le front. Vous avez aussi des Portugais qui entrent en guerre en 1916. Il y a une vieille alliance entre le Portugal et la Grande-Bretagne, certes, mais et la Grande-Bretagne demande au Portugal, est-ce que vous pouvez arraisonner et prendre ces bateaux allemands qui sont dans vos ports. Que fait le Portugal? Il fait ça. Et il mobilise en même temps 40 000 soldats qu'on retrouvera sur le front, notamment le front des Vosges, où ils vont défendre 12 kilomètres. En 1917, c'est au tour des États-Unis d'entrer en guerre, car la Russie, le Kaiser, invitait le Mexique à reconquérir le Texas, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et la Californie. Et cette menace est véritablement prise au sérieux par les services secrets américains, et ce qui entraîne en fait l'adhésion du président pourtant si pacifiste Wilson à déclarer la guerre sans avoir véritablement d'armée. Je reviendrai sur cette question plus tard. Cette entrée va compenser la perte de l'allié russe après la paix de Brest-Litovsk le 3 mars 1918 entre la Russie bolchevique de Lénine et le Kaiser. C'est aussi une guerre mondiale car les théâtres d'opération sont mondiaux. L'Europe est un des théâtres, c'est vrai, hein, le front français, franco-belge, on va dire, avec la petite partie de la Belgique qui a toujours été défendue par l'armée belge. Vous avez à l'ouest, vous avez à l'est la Russie et la Galicie, vous avez au sud le front italien et le front grec, vous avez aussi au Moyen-Orient, ne l'oublions pas, les Russes qui attaquent les Ottomans par l'Arménie, les Anglais accompagnés et aidés, hein, beaucoup aidés par les tribus arabes qui attaquent aussi les Ottomans au sud. Dans le Pacifique, vous avez, et l'Atlantique, vous avez la marine allemande qui est plus que menaçante. Hein, dans l'Atlantique, c'est une guerre à outrance, des U-boats vis-à-vis de tout ce qui navigue et qui bat pavillon non allemand. Vous avez en Méditerranée des combats qui sont nombreux entre Italiens et Austro-Hongrois, ou avec des Ottomans dans les Dardanelles. Et donc, on peut le dire, hein, deux assassinats, celui de Sarajevo et celui de Paris de Jaurès, ont conduit à une guerre et à cette guerre, à cette première guerre mondiale, dont Paul Valéry, le grand poète français, décrivait l'aboutissement comme suit « Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes désormais mortels ». C'est sur cette parole de Paul Valéry que je vais vous quitter. Je vous donnerai rendez-vous donc lundi pour une émission pour parler en fait et décrire un peu la vie des soldats sur le front. Voilà, chers auditeurs, auditrices, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les causes de la Première Guerre mondiale. Je vous invite toujours à lire énormément de livres et de revues sur la question et faire un peu attention à certains mythes, hein, comme le retour de l'Alsace et la Lorraine, dont je reparlerai plus tard. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous souhaite à tous aussi un bon confinement et un bon déconfinement, en espérant vous retrouver bientôt. Au revoir.
Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelait décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître. pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?